danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut.
Les mollusques sont très bien payés et ils travaillent tous à être payés encore mieux, à obtenir la création de postes nouveaux où viennent s'incruster leurs parents et alliés. Ils marient leurs filles et leurs sœurs à des hommes politiques errants qui se trouvent ainsi attachés au banc des mollusques et font souche de petits mollusques. Et les mollusques mâles, à leur tour, épousent des filles bien dotées, ce qui attache au banc des mollusques le riche beau-père, les riches beaux-frères, pour la solidité, l'autorité, la gloire des mollusques à venir. Ces travaux occupent tout leur temps. Ne parlons pas des papiers innombrables qu'ils font rédiger par des commis et qui ont pour effet de décourager, de discréditer, de ruiner tous les imprudents qui songent à autre chose qu'à la prospérité des mollusques et de leurs alliés. Le même jeu se joue chez nous et à nos dépens. Mollusques au chemin de fer, au poste, à la marine, aux travaux publics, à la guerre, alliés des mollusques au Parlement, dans les grands journaux, dans les grandes affaires, mariage de mollusques, déjeuner de mollusques, bal de mollusques, s'allier, se pousser, se couvrir, s'opposer à toute enquête, à tout contrôle, calomnier les enquêteurs et contrôleurs, faire croire que les députés qui ne sont pas mollusques sont des ânes bâtés et que les électeurs sont des ignorants, des ivrognes, des abrutis. Surtout veiller à la conservation de l'esprit mollusque, en fermant tous les chemins aux jeunes fous qui ne croient point que la tribu mollusque a sa fin en elle-même. Croire et dire, faire croire et faire dire que la nation est perdue, dès que les prérogatives des mollusques subissent la plus petite atteinte. Voilà leur politique. Ils la font à notre nez, jugeant plus utile de nous décourager que de se cacher, produisant de temps en temps un beau scandale, afin de nous prouver que nous n'y pouvons rien, que l'électeur ne peut rien au monde s'il n'adore le mollusque.
Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos six boulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui, en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Pierre Eudier.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Donc je vais vous parler un petit peu d'Alain. Voilà, je vais vous présenter un peu ce bonhomme dont on a parfois entendu parler au cours de nos études, mais qu'on a rarement revu après. Et que ce qu'on en a vu ne donne qu'une idée assez fausse de ce qui m'intéresse chez lui. Cet Alain, qui est né en 1868, mort en 1951, est avant tout pour moi un provocateur, un journaliste qui a lâché dans la presse des milliers de petits textes extrêmement agressifs, pas pour tout le monde, mais vis-à-vis des gens en place en particulier, et qui sont méconnus. On a réduit son œuvre à pas grand-chose, à une sorte de carrière pour sujet de bac et disserte de terminale. Donc c'est un peu triste, quoi. Alors qu'il y a ce côté impertinent qui est très sympa chez lui et qui est un angle d'attaque peut-être plus séduisant qu'autre chose. Par ailleurs, c'est un immense philosophe, mais on ne parlera pas de cet aspect-là tellement bien que ça soit présent aussi, parce que l'esprit chez Alain est effectivement ce qui se moque de tout, et au fond de la philosophie d'Alain, et ce qui explique un petit peu son attitude très critique vis-à-vis d'un tas de choses et d'un tas de gens, c'est cette conception de l'esprit qui est au monde pour dire non, hein, dit-il. La pensée est au monde pour dire non. Et l'esprit qui se moque de tout, le mauvais esprit, c'est tout ça. simplement l'esprit. Qu'on le prenne rieur ou sérieux, les puissances ne s'y trompent jamais. Rien n'est assuré contre l'esprit, ni rien pour l'esprit, car le juge de tout n'a qu'une manière de s'assurer, qui est d'attaquer aussitôt ce qu'il assure. Un propos très célèbre de lui, qui a fait l'objet de pas mal de dissertes que vous avez certainement subies dans votre jeunesse, résume bien cette idée. Penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui est d'un homme qui s'endort. Au contraire, le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi ? Au monde, au tyran, au prêcheur, ce n'est que l'apparence. En tous ces cas-là, c'est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l'heureux acquiescement. Elle se sépare d'elle-même. Elle combat contre elle-même. Il n'y a pas au monde d'autre combat. Donc cette vigilance de l'esprit chez Alain se retrouve dans tous les aspects de sa pensée. On connaît bien, parfois même trop bien, un recueil très célèbre qui s'appelle « Propos sur le bonheur » et on réduit parfois Alain à ça. Mais que ce soit dans les propos sur le bonheur ou dans les propos sur les pouvoirs, on trouve toujours la même idée de la vigilance de l'esprit qui refuse la fatalité. Parce que le malheur, c'est la fatalité, par exemple. Donc il faut vouloir être heureux. Et c'est une conquête. Donc il s'agit de renoncer à une certaine un fatalisme. Et en politique, c'est pareil. Hein. Alain dit que tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. C'est-à-dire que la vigilance du citoyen est essentielle. Il n'y a pas de bon régime, il n'y a pas de bon pouvoir, il n'y a pas de bons hommes politiques. Mais il y a parfois de bons contre-pouvoirs et de bons citoyens qui sont suffisamment vigilants, critiques et qui n'avalent pas tout ce qu'on veut leur faire avaler et qui rendent passable la situation politique. Mais il ne faut pas croire qu'un jour on trouvera une utopie qu'on pourra mettre en place, une société clé en main qui pourra se passer de la vigilance du citoyen. C'est impensable. Il y a des sociétés pires que d'autres. Mais la vigilance du citoyen est essentielle. Là aussi, il s'agit de dire non, de jamais respecter, sans toujours tout contrôler. Donc ça, c'est le fond de la pensée politique d'Alain, c'est ça, la vigilance citoyenne. On trouve un certain ton qui est très tranchant, très catégorique, très affirmatif toujours. On a l'impression que c'est un type qui discute pas. C'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et c'est un truc de prof, ça, un petit peu. Hein. Et lorsqu'il écrivait pour les grands journaux, bénévolement d'ailleurs, il avait ce truc de prof qui consiste un petit peu à forcer le trait, à aller un peu au-delà de sa pensée, pour réveiller les gens, justement. Donc il faut provoquer, parfois, pour empêcher les gens de s'endormir, il faut sortir un truc un peu énorme pour que justement les gens réagissent et pensent par eux-mêmes. Alors qu'une pensée tiédasse risque d'endormir le monde. Il vaut mieux des choses qui font réagir, même négativement. Hein. Et donc il faut se méfier de cette apparence de dogmatisme. Et lui-même en parle en disant « Le dogmatisme qui choque quelquefois en mon allure n'est en effet que d'allure. Il faut d'abord frapper fort. Le doute vient ensuite. » Alain est né dans le Perche, dans l'Orne, et il revendique, c'est quelqu'un, oui, il fait partie de ces gens dont se moque Brassens, hein, ces gens qui sont nés quelque part. Mais Alain se revendique percheron, et au point même de se prendre pour un cheval. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure défiler quelques phrases. Il y en a une, il signe parfois d'ailleurs en dessinant un cheval, certaines de ses lettres. Voilà ce qu'il dit en parlant de lui-même. « Je fus normalien et agrégé. Après cela, professeur. Rien n'est plus commun. » Mais le rebelle et le sauvage n'ont pris que l'habit. Le fond de l'esprit est resté mauvais, ce qui veut dire bon. Encore aujourd'hui, je pense par un mouvement de cheval qui refuse la bride. Je ne sais pourquoi je le dis, car cela se voit. Et il revendique donc ses origines de l'Orne. Il dit que dans l'Orne, d'où il vient, il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent. Ceux de l'Orne, je les connais bien. Je suis l'un d'eux. Ce sont de grands diables qui ne savent ni croire ni respecter. Sa jeunesse qu'il passe dans cette campagne mortagnaise, c'est une jeunesse quasi paysanne, et ça fait c'est important parce que c'est aussi quelqu'un, Alain, qui ne va jamais douter, comme ça arrive parfois chez les philosophes, de l'existence du monde extérieur. Il a été plongé dans le monde extérieur très jeune, il a pêché, il a chassé, il a fait les moissons, il a cavalé les bois et les champs, et donc il ne doute pas du monde extérieur, au contraire il pense que l'esprit ne se révèle que face à des objets, face au monde, quel qu'il soit. Ce qui fait que son œuvre est remplie d'objets, est remplie de la présence de la nature, par exemple. Ce n'est pas du tout un penseur qui s'enferme entre quatre murs. C'est un penseur qui se sent chez lui dans tout l'univers. Je ne me pense que par le monde. Il faut rester dans la nature, s'y enfoncer pour s'y retrouver, n'en jamais revenir, ni point faire une promenade. La pensée ne doit pas avoir d'autre chez soi que tout l'univers. C'est là seulement qu'elle est libre et vraie. Hors de soi, au dehors, le salut est dans la vérité et dans l'être.
On pensera rapidement sur ces jeunes années. Bon, collège de curé, quand même, c'est important là. Un petit collège de curé à Mortagne-au-Perche, qui va lui donner un certain dégoût de la religion, d'ailleurs, ou du moins de l'Église, parce qu'il a un infini respect pour les mythologies, quelles qu'elles soient, et la mythologie chrétienne, à ses yeux, est une des plus belles. Et il n'a peut-être pas tort, du moins, son point de vue est à prendre en considération, mais l'Église, il n'aime pas beaucoup. Alors voilà ce qu'il dit dans un propos, un des 5000 qu'il a écrit gratuitement, en 1908, voilà ce qu'on pouvait lire à la première page de la Dépêche de Rouen. Un propos dans lequel il évoque ses années d'école primaire. Quand j'avais 10 ans, j'apprenais les belles lettres et l'histoire dans un petit collège de curés. Nous avions 6 leçons de mémoire à apprendre pour la classe du matin, autant pour la classe du soir. Et quelles leçons ! Une page de Buffon, 4 versets des Actes des Apôtres en latin, une demi-page de l'Évangile de Luc en grec, 5 ou 6 pages d'histoire ecclésiastique et des sous-préfectures en vers français. Or, n'allant son Mortagne où ce bâtiment preux, argentan et donfron sur son roc sourcilleux, etc. Après cela, 2 devoirs écrits tous les jours. Nous roulions à toute vitesse. Ceux qui culbutaient sur la piste étaient condamnés à se tenir les bras croisés et le corps droit, à genoux sur un rondin de bois. Nos maîtres étaient d'épaisses brutes dont le plus savant ne put jamais subir avec succès les épreuves du brevet simple. Quand je pense à ces sombres années, j'admire la profonde sagesse de ces imbéciles. Tout être humain qui avait tourné 10 ans dans cette cage à écureuils était abruti pour la vie, et sans remède. Je me tirais de leurs mains sans grand dommage, d'abord parce que je ne restais pas longtemps chez eux, ensuite parce que j'avais à cet âge-là une mémoire admirable, qui retenait très vite et oubliait de même. Toutes leurs leçons ne restèrent pas plus longtemps en moi que l'eau dans un panier. Dans la suite, lorsque j'eus attrapé une bourse au lycée, j'eus à choisir comme Hercule entre le vice et la vertu, je veux dire entre la paresse et le travail. D'un côté, l'enseignement dit littéraire qui me rappelait par son objet le système des curés, mais avec 2 leçons au lieu de 12. De l'autre, l'enseignement scientifique, objet nouveau, méthode connue, leçon à toute vitesse, gros cahier de cours, toute la science humaine mise en pilule et avalée en 3 ans. Je choisis prudemment la paresse. Cela m'a permis d'apprendre la science tout doucement, comme on cueille des fleurs dans la campagne. Alors c'est aussi important de montrer, de dire qu'Alain n'est pas un héritier, mais un boursier de la République. Hein, donc issu d'une famille relativement modeste, et il a droit à une bourse. Ce qui n'est pas le cas de Bergson ni de Sartre, par exemple, qui sont issus des beaux quartiers. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est intéressant de le montrer. Ce qui explique la grande proximité qu'il aura toujours par rapport aux humbles, aux laissés pour compte de la société, et une certaine méfiance, parfois une certaine haine des importants, de ceux qui ramènent leurs fraises et leurs sciences en particulier. Et il évoque que certains pédagogues de son époque, qui, à l'époque, ça a bien changé maintenant, était sot parfois. Et j'ai connu un sot pédagogue qui, lorsqu'il rapportait à un élève quelque travail, après l'avoir examiné, disait gravement « Je ne vous parlerai pas de ce qu'il y a de bon là-dedans. Vous y penserez toujours bien assez. Voyons les fautes. » Voilà un homme qui tirait comme un bœuf au rebours du bon sens. Voir le bien, amplifier le bien, laisser tomber le médiocre et en un mot, faire découvrir aux enfants leur propre trésor, c'est l'essentiel de la tâche pour un directeur d'enfants. Car bien loin de penser, comme quelques moines armés de ciseaux, que c'est en retranchant le mal qu'on arrive au bien, je crois tout au contraire que c'est en arrivant au bien qu'on évite le mal, ou plutôt que l'on conduit le médiocre et le mauvais vers le bien. Le tout est de savoir louer, et il faut croire que c'est difficile. Combien en ai-je entendu de ces ânes à bonnet de docteur qui semblaient ne chercher que l'occasion d'humilier le disciple et en le rejetant d'un coup de pied d'âne dans les régions inférieures de s'élever eux-mêmes le plus haut qu'ils pourraient. Ma foi, même tout petit, je les méprisais. Hé, pédant, au lieu de piquer tes fleurs en papier dans cette jeune terre, occupe-toi plutôt de cultiver et de conduire cette bonne grosse erreur qui a poussé toute seule. Toute vérité sort d'une erreur. Toute parure du style naît des images du rêve, absurdes quand elles naissent, et dont il faut pourtant tresser la poésie. Avec quoi ferais-je ma sagesse, sinon avec ma folie redressée ? Un très beau texte qui continue après par une charge contre les professeurs de maths,
Mais les plus haïssables étaient les mathématiciens. Ils semblaient n'être là que pour découvrir en nous les signes d'une stupidité sans remède. Et quoique je me défendisse assez bien, parce que j'avais la mémoire bonne, j'avais toujours un froid dans le dos par la crainte de laisser sortir quelques coq à l'âne algébriques que le maître m'aurait rappelé toute l'année. Aussi, parmi les esprits lents et timides, quel massacre! Ils tombaient dans tous les pièges et finissaient par laisser aller les paroles en panique. Ils étaient bien ridicules et nous avions des rires d'esclaves. Un sage aurait dit au pauvre enfant: « Vous voulez certainement dire quelque chose, mais vous vous trompez sur les mots, et c'est la peur qui vous donne l'apparence d'un sot. » J'ai attendu bien des fois une parole de ce genre, et il faut que je le dise, toujours en vain. Donc un infini respect pour l'enfant, chez Alain, pour jamais dire qu'un enfant est intelligent ou pas, on n'en sait rien. Toujours faire le pari de l'éducabilité, comme disent les savants maintenant, de l'enfant. De même, il y a un autre texte assez célèbre, Michel Onfray l'aime beaucoup, il le cite dans un de ses bouquins intégralement, qui s'appelle « L'odeur de réfectoire ». Souvenir de pensionnaire, qui va peut-être rappeler des choses à certains d'entre vous, qui est aussi un propos paru en 1907 dans la Dépêche de Rouen. « Il y a une odeur de réfectoire » que l'on retrouve la même dans tous les réfectoires. Que ce soit des chartreux qui y mangent, ou des séminaristes, ou des lycéens, ou de tendres jeunes filles, un réfectoire a toujours son odeur de réfectoire. Cela ne peut se décrire. Eau grasse, pain moisi, je ne sais. Si vous n'avez jamais senti cette odeur, je ne puis vous en donner l'idée. On ne peut parler de lumière aux aveugles. Pour moi, cette odeur se distingue autant des autres que le bleu se distingue du rouge. Si vous ne la connaissez pas, je vous estime heureux. Cela prouve que vous n'avez jamais été enfermé dans quelque collège. Cela prouve que vous n'avez pas été prisonnier de l'ordre et ennemi des lois dès vos premières années. Depuis, vous vous êtes montré bon citoyen, bon contribuable, bon époux, bon père. Vous avez appris peu à peu à subir l'action des forces sociales. Jusque dans le gendarme, vous avez reconnu un ami. Car la vie de famille vous a appris à faire de nécessité plaisir. Mais ceux qui ont connu l'odeur de réfectoire, vous n'en ferez rien. Ils ont passé leur enfance à tirer sur la corde. Un beau jour, enfin, ils l'ont cassé. Et voilà comment ils sont entrés dans la vie, comme des chiens suspects qui traînent un bout de corde. Toujours, ils se hérisseront, même devant la plus appétissante pâtée. Jamais, ils n'aimeront ce qui est ordre et règle. Ils auront trop craint pour pouvoir jamais respecter. Vous les verrez toujours enragés contre les lois et règlements, contre la politesse, contre la morale, contre les classiques, contre la pédagogie. Et contre les palmes académiques, car tout cela sent le réfectoire. Bon. Et après ses très brillantes études au lycée d'Alençon, donc, qui est maintenant devenu le lycée Alain d'ailleurs, il choisit, comme il disait tout à l'heure, la paresse, donc les lettres. Et surtout qu'un proche parent lui explique qu'il travaillera beaucoup moins qu'en faisant polytechnique. Et donc ça lui paraît bien sympathique comme perspective. Donc il se jette dans une préparation à l'école normale supérieure, au lycée Michetet à Vanves, où il a comme professeur Jules Lagneau, complètement oublié maintenant. Et ce Jules Lagneau, pour Alain, est vraiment le seul grand homme qu'il ait rencontré, dit-il. Bon. J'ai appris de lui un genre d'analyse qui adhère à l'objet et qui est de pensée pourtant. Ses recherches sur la vue, le toucher, l'ouïe, m'ouvrirent un monde. Je connus que l'univers des choses est aussi un fait de pensée. Oui, tous les matins, n'importe quel homme reconstruit le monde. Tel est le réveil, telle est la conscience. Et tous les matins, le philosophe, par un réveil redoublé, admire ce réveil même et reconquiert l'âme de l'âme. Donc cette importance de l'esprit, hein, on en a parlé pas mal, on en parlera encore, et il la sent, voilà, l'agneau lui révèle, lui confirme l'importance de l'esprit, qui est le seul absolu qu'Alain ait bien voulu prendre en compte. Et il fait des très bonnes études là-bas. Et il entre au lycée Michel, il entre à l'école normale supérieure. Et même des dizaines d'années après, il évoque ces années d'école normale supérieure en disant « Oui, je fus improvisateur, je fus mystificateur, brillant, redouté, envié, critiqué par ceux que je criblais. Je répandais la terreur. » Il prétend même avoir inventé la bombe à eau. Il provoque tout le monde quand un prof dit « Surtout ne lisez pas le livre de Monsieur Machin, c'est très mauvais. » Le lendemain, il se met au premier rang avec le livre de Monsieur Machin ouvert. Enfin bon, encore, ça c'est pas trop méchant, mais il supporte pas ces gens-là, quoi. C'est vraiment un bon percheron de bonne race qui se laisse pas facilement élever, dresser. Et à l'école normale, il y a des profs qui ne supportent pas, c'est tous ceux qui sont un petit peu des succursales, des intellectuels à la mode dans, autour de 1900. Quoi. C'est-à-dire, ils les appellent des gobe-mouches. C'est des gens qui avalent tout sans réfléchir. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas dire non. Des gens qui ne savent pas juger. Parce que l'esprit, bien sûr, comme on l'a déjà dit, l'esprit, c'est cette faculté en nous qui nous permet de trier, de juger. C'est la liberté, c'est la volonté aussi, c'est tout ça, l'esprit. Et ces gens-là avalent tout. Ils parlent surtout des critiques littéraires. Qui avalent tout sans prendre parti. Et voilà ce qu'il en dit de ces gobe-mouches. D'ailleurs, les trois gobe-mouches principaux, pour lui, c'est Taine, Sainte-Beuve et Ronan. Alors, il est tout à fait injuste, parce qu'il y a des choses intéressantes chez ces gens-là. On ne peut pas les rejeter en bloc comme ça. Mais c'est les trois bedeaux de la littérature, dit-il. Propos de 1928. « Au temps où je faisais mes études à l'école normale, je considérais Taine comme le roi des gobe-mouches. » Cette espèce foisonnait à l'école normale, et plusieurs de nos maîtres en étaient des exemplaires assez remarquables. Le gobe-mouche avale tout, faits, textes et commentaires. Il rend cela en idées, si l'on peut ainsi dire. Et comme je puis savoir, en ouvrant l'estomac d'un oiseau, quelle chose comestible il a rencontré, ainsi, le discours du gobe-mouche montre des débris encore discernables des vérités qu'il a rencontrées en son vol de gobe-mouche, bec ouvert, sans choix. Je dis vérité car tout est vrai, tout ce qu'on voit est vrai, tout ce qu'on lit est vrai. Oui, même les cris d'un fou, car il est vrai qu'il l'écrit. Et les sottises elles-mêmes forment une part de l'opinion qui est considérable. On dit, on croit, et il est vrai qu'on dit et qu'on croit. On commente, et de nouveau, on commente le commentaire. Ce sont de vrais commentaires, ce sont des faits de l'écriture. Le séminariste avale sa théologie. Il n'y regarde pas, mais il est en cage et gavé selon un choix. Le gobe-mouche est en liberté. Il vole bec ouvert. Il avale tout. C'est effrayant. Alors, 1892, malgré son désamour des gobe-mouches, il est reçu à l'agrégation, troisième, et il retourne à Mortagne au Perche voir papa. Alors pour lui dire, papa, regarde, j'ai le diplôme, j'ai le grade d'agrégé. Et son père lui dit, peut-être que tu n'es tout de même qu'un imbécile. Et il dit on a toujours besoin de ce genre de leçons. C'est vrai. On voit de qui tenait cette propension à envoyer balader les gens. Donc peut-être que tu es le même tout agrégé que tu es peut-être qu'un imbécile après tout. Bon. Donc il arrive quand même. Il a un poste dans l'Ouest à Pontivy. Son premier poste est à Pontivy. Voilà ce qu'il dit dans ses mémoires. J'enseignais à deux classes réunies, ce qui faisait trois élèves en tout. Dont l'un approuvait de la tête et ne comprenait rien. Vous voyez, c'est cohérent ce qu'on dit depuis le début. Et il écrit à son copain Élie Halévy, le grand politologue, qui sera le très grand ami de toute sa vie. « Je goûte la pure joie de vivre. Je démolis mon piano. Je mets des couleurs extravagantes sur de grandes toiles. Je dicte mon cours en me promenant. Dans 10 ans, je saurai écrire. Il fait très beau. Je vis en plein air. Je fais de la sculpture aussi. » Bon, enfin, il s'occupe de tout. Et il s'occupe aussi beaucoup des filles. Et ça avait commencé dès l'école normale. Et ça va vraiment durer longtemps. Alors là, il est à Lorient. C'est son deuxième poste. À Lorient, il va y rester 7 ans, 1893-1900. Et il explique que son séjour à Lorient, c'est un mélange d'un travail sévère et abstrait et d'une existence très fantaisiste. Et oui. Alors, le travail sévère et abstrait, c'est qu'il bosse comme un fou sur Aristote. Il traduit Aristote. Il fait des études sur Aristote complètement dingues. Et en même temps, existence très fantaisiste parce qu'il s'occupe beaucoup des dames encore. Et il en parle en 1946, donc il a 78 ans, et il évoque cette époque en disant, en parlant de lui à la troisième personne, « La ville de Lorient abondait en femmes faciles. Alain mena alors la vie d'un officier de la coloniale, et cela lui fit oublier les principes de la morale familiale que cependant il enseignait. » Et il écrit à Lorient, il commence à écrire des cahiers, qui s'appelleront les cahiers de Lorient, en un seul mot, qui ont été publiés par Gallimard il y a 40 ans, mais qui sont un peu épuisés, et voilà ce qu'on y trouve entre autres. Des textes très très durs, par exemple contre l'Église. Fonder, c'est un impératif, hein, fonder une société des honnêtes gens, tous les voleurs en seront. Ainsi fait l'Église. L'Église a institué des offrandes et des pratiques qu'elle proclame être le signe de la vertu. Aussitôt, tous ceux qui ont des vices ou des vols à cacher s'empressent de faire ces offrandes et ces pratiques. Les plus tarés paient un peu plus que les autres, de leur personne et de leur bourse. Et on peut les voir, dans toutes les villes où la procession circule, on peut les voir derrière le dais, semblables à des loups devenus bergers, le poil sauvage et l'œil féroce, mais l'échine courbée. Oui, c'est là, derrière le dais, que vous trouverez, bien plus que dans les prisons, les vraies figures de scélérats, les bêtes de proie aux ongles crochus. À ce point, enfin, j'arrête, parce que c'est lui qui écrira de si, c'est vrai, des choses si, si magnifiques sur le christianisme. Il dira d'ailleurs quelques années plus tard, « Je pense souvent que la lutte anticléricale a mal visé. On a réfuté des légendes et des contes au lieu de les prendre comme des images populaires pleines de sens. Donc on peut bien sûr être tout à fait respectueux de la religion et tout à fait anticlérical. Ce qu'il faut, c'est que la religion reste dans sa sphère et ne vienne pas s'occuper de politique. Et c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'Alain fait partie de ces militants républicains qui écrivent, qui pensent, qui militent à une époque où la République doit faire sa place, justement, dans un monde dominé par l'Église. Donc il faut, ça fait partie du combat.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau, et à l'intérieur d'une flamme.
Pierre Heudier.
1894, c'est l'affaire Dreyfus aussi. Hein. L'affaire Dreyfus, Alain, au départ... d'ailleurs, l'affaire Dreyfus n'est pas une affaire en 1994. C'est qu'un incident dont personne ne parle tellement. Mais même un ou deux ans après, avant 1898, avant le j'accuse de Zola, Alain, comme beaucoup de gens de gauche, considère que c'est une affaire interne à la bourgeoisie et même à la haute bourgeoisie, que les bourgeois se bouffent entre eux. Après tout, ça en fera moins. Quoi. À la limite, je suppose que c'est leur raisonnement. Et c'est vrai que c'est sur le tard. Même Jaurès, au départ, n'est pas convaincu que Dreyfus est innocent. Et c'est bien sûr lorsque la République semble en danger qu'un tas d'intellectuels comme Alain se mobilisent. Quand il fut évident que les grands chefs de l'armée s'honoraient presque d'une erreur, pas seulement de l'armée d'ailleurs, que les grands chefs s'honoraient presque d'une erreur et en tiraient occasion de nous rappeler qu'ils nous gouvernaient, je me jetais dans la révolte et je rattrapais mes amis Dreyfusards. Nous jurâmes qu'on ne crierait point « Vive l'armée » aux retraites militaires. Et discourant sur les bancs du square avec l'appui des ouvriers de l'arsenal et des marins, nous fûmes maîtres de la ville. Et même nous préparâmes d'assez près une commune autonome pour le cas non invraisemblable d'un coup d'État militaire. Donc c'est le moment où il écrit aussi dans un organe qu'il crée avec un copain qui s'appelle l'Union universitaire, qui défie l'autorité, la hiérarchie universitaire. D'ailleurs, il a des ennuis. Il est sauvé in extremis aussi par un copain qui est bien placé, heureusement. Sinon, il prenait des risques énormes. Et il écrit également dans la revue de métaphysique et de morale, donc comme un vrai philosophe. Ça rassure ses maîtres, d'ailleurs. Il fait partie de l'équipe qui a fondé la revue de métaphysique et de morale. Donc il écrit là-dedans. Il va aussi participer aux congrès internationaux de philosophie, les premiers congrès internationaux de philosophie, où il dialogue avec Bergson. Il est même rapporteur d'une séance avec Bergson. Il écrit des articles, des analyses, des comptes rendus dans la revue de métaphysique. Physique et de morale. Bon, il fait des choses qui sont tout à fait convenables pour un professeur respectable, mais il continue à faire des choses tout à fait nouvelles, irrévérencieuses pour la hiérarchie, et puis tout à fait inconvenantes chez un professeur, à l'époque du moins. Il fait des conférences dans la campagne, dans des sociétés républicaines d'instruction. Vous savez, dans le sillage de l'affaire Dreyfus, se fondent des sociétés républicaines d'instruction qui deviennent des universités populaires par la suite. Et Alain fonde l'université populaire de Lorient et continuera à Rouen d'organiser des débats ou de faire des conférences dans le cadre d'université populaire. Et à Paris également, il continuera, Place d'Italie, à Montmartre, bénévolement, d'aller faire des choses dans les universités populaires. Là, le droit du savant sur l'ignorant est clairement défini. Il s'exprime par un seul mot, « instruire ». C'est alors que l'on comprend que le peuple, ce fils d'Ésope, n'est jamais abruti ni endormi, il n'est qu'abandonné. Hein, c'est surtout l'idée de se mettre en amitié avec le peuple, qu'il n'y ait pas cette coupure entre les élites et le peuple qui motive Alain dans son militantisme au sein des universités populaires. On eût dit que le monde des hommes s'éveillait. Une université populaire se fonda du jour au lendemain. Tous les jeunes en étaient. Nous parlions à la ville et dans les faubourgs. Je me souviens qu'un dimanche, à Guéméné-sur-Scorff, je parlais dans la halle, devant une masse paysanne qui riait aux bons endroits. Je leur prouvais que le diable n'existe pas. Alors, 1897, en Bretagne, aller brailler sous les halles que le diable n'existe pas, c'est tout à fait imprudent. Ça se fait pas. Le diable existe. Alors, on lui rappelle dès le lendemain la Croix du Morbihan, qui sont des journaux à l'époque qui sont extrêmement anti-républicains, complètement antisémites, mais de façon, on ne peut même pas imaginer maintenant une chose pareille, contre les francs-maçons, n'en parlons pas. Eh bien, enfin, bon, des gens contre la République et tout ce qui cherche à penser sans se soumettre à la hiérarchie catholique. Donc voilà, voilà ce qu'il raconte dès le lendemain. N'en déplaise au jeune homme qui occupe la chaire de philosophie au lycée de Lorient, l'enfer existe. La philosophie enseignée au lycée de Lorient est absolument dangereuse pour la foi des élèves. Les parents qui se prétendent chrétiens savent ce qu'ils ont à faire. Effectivement, quelques semaines après, il n'a plus que deux élèves. On comprend que l'Église s'émeuve de voir cette espèce d'agitateur qui finalement risque de lui faire perdre de la clientèle. Mais la hiérarchie universitaire aussi ne supporte pas. Jamais un professeur n'a fait ça. Après, ça va se banaliser un petit peu avec Sartre et gens comme ça. Mais qu'un professeur sorte de sa réserve pour aller agiter les campagnes, ça se fait pas, ça s'est jamais fait. Et Jules Lachelier, le grand maître de la philosophie à l'époque, lui dit « Je vous conjure de ne point vous mêler de politique et de vous réserver tout entier pour la philosophie. » Bah oui, la revue de métaphysique et de morale, d'accord, les congrès, d'accord, mais aller dans les campagnes, faire des trucs, non, ça va pas, non. Écrire dans des petits journaux, jamais. Je ne vous dissimule pas qu'il existe contre vous au ministère certaines préventions. Bah oui, il est marqué de rouge et tout ça. Alors, il écrit, il s'en fout complètement, et il écrit dans la Dépêche de Lorient, en 1900, 24 chroniques. Qu'il signe à l'un, d'ailleurs, il commence à signer à l'un. Alors, les Dépêches de Lorient, c'est les anti-croix. Hein, ça fait partie du combat républicain face aux croix, qui sont très, très puissantes. Il faut créer des organes républicains. Et la Dépêche de Lorient, c'est le journal des Bleus de Bretagne, c'est des républicains. Et il écrit des chroniques qui sont assez sympas, d'ailleurs, mais ce n'est pas encore le grand style qui le rendra si délectable plus tard. Alors, la vocation d'écrire m'est venue de politique. Le spectacle des importants m'a toujours donné l'envie de les cribler de flèches. C'est alors que j'écrivis des chroniques à l'applaudissement de tous. Et en effet, c'était raisonnable et plat. Je voyais bien Alain qui entra alors en scène, commença très mal. Il écrivait comme un professeur. Hein, toujours ce souci de ne pas être professeur, d'être autre chose. Ce qui fait qu'il a été un professeur exceptionnel. Parce que justement, il n'a pas voulu être professeur, il n'a pas voulu être philosophe. Ce qui fait qu'il est tout à fait atypique et particulièrement intéressant. Là, il écrit une chronique sur le féminisme qui se termine de façon tout à fait sympathique et un peu nouvelle pour l'époque. Il ne faut pas rire du féminisme. On pourra conclure que la condition de la liberté réelle d'un peuple, c'est le degré d'instruction et d'émancipation de la femme. Et c'est vrai que ça sera un des premiers à défendre l'égalité de salaire homme-femme dans des propos par la suite. Lycée Corneille à Rouen. Donc là, ça va être très important pour lui. À Rouen, il va faire au moins deux rencontres très importantes. C'est la rencontre d'André Mauroy, un de ses élèves les plus célèbres, un peu oublié maintenant, mais qui fut célèbre il y a quelques dizaines d'années. Et voilà ce que Jean Texier, un garçon qui était au lycée à cette époque-là, en 1900, écrit 50 ans après. « Tout jeune, j'ai connu Alain quand il vint enseigner à Rouen la philosophie. Il succédait à son camarade Léon Brunschvic et venait du lycée de Lorient, précédé d'une légende extraordinaire où le solide maître à penser, tout à fait dégagé des contraintes universitaires, se mêlait aux libertins. Don Juan normand aux yeux clairs, aux larges épaules, portant de belles moustaches à la Maupassant, dont il avait la puissance sportive. Un bel ami qui eût été philosophe et grand esprit. Et moi, des jeunes filles, inquiétude des mères, terreur des maris. » Et André Mauroy donc va être le témoin de cours exceptionnels qui montrent à quel point Alain aussi dit non à toute une tradition pédagogique. Dans ses mémoires, André Mauroy, voilà ce qu'il nous dit. « Il avait des manières jeunes et libres qui ne semblaient pas d'un professeur. Certains jours, il arrivait en riant et commençait sa classe sans dire un mot par un dessin au tableau noir. Parfois, il se frottait les yeux et bâillait. Nous sentions passer dans ses cours comme un reflet de sa vie personnelle. » Bon, et effectivement, il donne aussi à ses jeunes élèves des dissertations qui, bon, si elles étaient données à notre époque, feraient déjà sourire les parents, parfois même provoqueraient leur une réaction un peu. Ouais. Voilà ce qu'il propose. Dialogue entre un sacristain et un capitaine de pompiers sur l'existence de Dieu. Mais si ça vous plaît pas, j'en ai un autre qui est pas mal. Une jeune fille s'apprête à franchir le parapet du pont Boïeldieu. Un philosophe la retient par la jupe. Dialogue. Alors en 1900, c'est vrai, à une époque où il y a à peu près une classe d'âge qui passe le baccalauréat, c'est à peu près c'est autour d'1% hein, à l'époque. On est à 64% maintenant. Donc il n'y a qu'une frange infime de la bourgeoisie assez aisée qui envoie ses élèves au lycée. Et donc c'est un milieu où ça devait faire bondir des choses pareilles. Alors bizarrement, ce professeur anticonformiste qui est... C'est très étrange, mais ses élèves décrochent les plus grandes récompenses au niveau national. Le concours général de philosophie est gagné par ses élèves, par exemple, dont André Mauroy fait partie. Donc ça surprend. On comprend pas trop. C'est curieux, ce type qui devrait, avec sa façon de faire cours, il devrait échouer. D'ailleurs, c'est ce que pensent les inspecteurs. Les inspecteurs, ces pédagogues bavards qui finiront par rendre impossible un métier déjà difficile et qu'au surplus, ils ne connaissent pas. Voilà ce qu'il en dit. Donc les inspecteurs se bousculent pas pour aller l'inspecter parce que ils finissent tous plus ou moins dans un propos. Donc il en parle après. Donc il préfère « Non, vas-y, c'est toi. Non, j'y suis déjà allé il y a 2 ans, c'est ton tour. Bon. » Bon. Et effectivement, Mauroy raconte un jour que Alain, Émile Chartier, leur faisait un cours un peu bizarre, si on peut dire, qui peut surprendre, mais à l'époque, ça peut se comprendre. Il expliquait aux jeunes hommes qu'il avait devant lui que s'ils avaient recours aux prostituées dans leur vie sexuelle, il fallait faire attention de respecter la personne qui était devant eux et de ne pas forcer cette personne qui leur rendait peut-être un service à mimer des sentiments qu'elle n'éprouvait pas, par exemple. Et brusquement, ça frappe à la porte. Toc, 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 entrez, et on voit le proviseur qui arrive, suivi de monsieur, je ne sais plus son nom, le directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation, qui s'appelait l'instruction publique à l'époque. Donc pas l'inspecteur de base, hein, le directeur de l'enseignement secondaire arrive. Paf. Il s'installe, bruit de chaise, bon, et tous les élèves pensaient qu'il allait se dégonfler, pas du tout. Il dit oui, je. Alors l'inspecteur dit ben oui, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Ben, je parlais à ces jeunes gens de leur devoir envers les prostituées. Et il a continué pendant 1 heure. Et peut-être que l'inspecteur a pris des notes, et peut-être que ça l'a peut-être été utile pour lui, si ça se trouve. Alors il écrit aussi des bouquins, alors une fois qu'il est à Rouen. Il écrit un Spinoza qui signe Émile Chartier. D'ailleurs, c'est le premier et le dernier livre signé Émile Chartier, qui est son vrai nom. Voilà. Il est d'ailleurs réédité, mais sous le nom d'Alain maintenant. Donc il écrit un Spinoza, il continue d'aller dans les congrès, etc. Donc c'est très bien, c'est très bien. Il rentre dans le rang. Manque de chance, il se lance aussi dans la campagne électorale de 1902. Et il écrit dans la Démocratie rouennaise un tas de textes qui signe Philibert, qui signe Cardeuil parfois, le Cardeuil. Et aussi Alain, bien sûr, parce que c'est un nom qu'il a pris un peu au hasard, je pense. Enfin, il y a plein d'hypothèses là-dessus, mais on ne sait pas trop, en fait. Et il se lance dans le militantisme politique de façon très, très précise, là. Et il continue ses conférences et ses débats, d'animer des débats dans les universités populaires. Il est en 1903 à Condorcet, et voilà ce qu'il en dit. « J'étais dans le lycée à la mode. Je ne fais rien pour perdre, surtout dans le lycée à la mode. Et je ne supportais pas la charmante frivolité de ces enfants illustres. » Et oui, c'était pas tout à fait son milieu d'origine non plus. Bon, alors, il accepte quand même d'y rester. Assez peu de temps, d'ailleurs, au lycée Condorcet. En tout cas, il va bientôt arriver au lycée Henri IV, où il fera l'essentiel de sa carrière. Mais avant cela, je vais vous lire quand même un texte qu'il écrit en 1904. Il commence à écrire régulièrement pour la Dépêche de Rouen, une fois qu'il est à Paris. C'est très étrange. Donc, il écrit des chroniques toutes les semaines. Qu'il appelle propos du dimanche, propos du lundi. Et je vais vous lire un de ses propos contre les profs de philo. « J'ai fait ces temps-ci une espèce de voyage au pays des philosophes. J'entends par là que je me suis trouvé par hasard mêlé à des philosophes de métier, de ceux que la République paie pour être philosophe de telle heure à telle heure dans une grande salle bien chauffée. Ainsi que beaucoup de profanes, je me faisais du philosophe une assez belle idée. Je pensais à Socrate, buvant la ciguë pour expier la franchise de ses propos. Je voyais Épictète à Rome, dans son hangar, enseignant par l'exemple et par la parole le mépris des richesses et l'amour de la vertu. Je voyais Marc Aurèle, empereur, aussi simple, aussi courageux, aussi franc, aussi juste qu'Épictète esclave. En un mot, je me disais avec Platon, quand les philosophes dirigeront les affaires publiques, alors la justice règnera et avec la justice le bonheur. Or, Parmi les philosophes que j'ai observés de près l'autre semaine, il n'y en a qu'un tout petit nombre qui ressemble, et encore de loin, au modèle que je m'étais formé. Ce sont les plus âgés d'entre eux. On aperçoit dans leur discours et dans leur attitude un sincère amour du vrai, une franchise un peu rude et une noble simplicité. Mais avec cela, comme ils sont respectueux des puissances et des hiérarchies, comme dans les discussions ils atténuent l'expression de leurs idées, et puis ils sont décorés. Ce dont je ne puis m'empêcher d'être un peu triste. Ils attachent donc tant d'importance à l'opinion. Alain refusera les décorations systématiquement toute sa vie, hein, la Légion d'honneur deux fois. Alors en même temps, c'est l'époque où il écrit aussi un très très beau texte, c'est un discours de distribution des prix, qui laisse entrevoir le très grand écrivain qu'il sera par la suite, mais il l'est déjà, hein, mais dans une autre tonalité, disons, hein, parce que moi je mets en avant surtout une certaine tonalité. Un discours dans lequel il dit non, dans lequel son esprit s'insurge contre les systèmes cette fois-ci, puisque la pensée doit toujours être neuve, doit toujours renaître face à un objet, on faut toujours tout repenser à neuf. Alors l'idée de s'enfermer dans un système, pas du tout. De tout système, il faut tirer, et se retirer, dit-il, hein, toujours. Il ne faut pas rester dedans. Mais il faut en tirer des choses intéressantes. D'ailleurs, ça sera un des premiers à parler de Hegel en France. Il ne faut pas rester dedans. Les hommes qui veulent sincèrement penser ressemblent souvent au ver à soie qui accroche son fil à toute chose autour de lui et ne s'aperçoit pas que cette toile brillante devient bientôt solide et sèche et opaque, qu'elle voile les choses et que bientôt elle les cache. Que cette sécrétion pleine de riche lumière fait pourtant la nuit et la prison autour de lui, qu'il tisse en fil d'or son propre tombeau, et qu'il n'a plus qu'à dormir, chrysalide inerte, amusement et parure pour d'autres, inutile à lui-même. Ainsi, les hommes qui pensent s'endorment souvent dans leur système nécropole. Ainsi dorment-ils séparés du monde et des hommes. Ainsi dorment-ils pendant que d'autres déroulent leur fil d'or pour s'emparer. Ils ont un système comme on a des pièges pour saisir et emprisonner. Toute pensée ainsi est mise en cage, et on peut la venir voir. Spectacle admirable, spectacle instructif pour les enfants. Tout est mis en ordre dans des cages préparées. Le système a tout réglé d'avance. Seulement le vrai se moque de cela. Le vrai est d'une chose particulière à tel moment, l'universel de nul moment. À le chercher, on perd tout système, on devient homme, on se garde à soi, on se tient libre, puissant, toujours prêt à saisir chaque chose comme elle est, à traiter chaque question comme si elle était seule, comme si elle était la première, comme si le monde était né d'hier. C'est aussi l'époque où il brûle plusieurs centaines de pages d'une thèse qu'il avait commencée, qui s'appelait « Analytique générale ». Là aussi, hein, il dit non à sa carrière de prof standard. Et il arrive au lycée Henri IV, où il va avoir... là, il n'aura pas des classes de 2 ou 3 élèves, mais parfois de 60 élèves. Et il va avoir des gens qui seront très célèbres, comme Georges Canguilhem, le grand professeur de philosophie, comme Simone Veil, avec un W. Des gens aussi inattendus que Ex-Braya, le type qui a écrit beaucoup de romans policiers. Henri Thomas, romancier qui est moins connu. Jean Prévost, qu'on a redécouvert il n'y a pas très longtemps. Maurice Schumann, le ministre du général de Gaulle. Julien Gracq, Henri Massis, enfin, beaucoup, beaucoup de gens. Plus des gens qui viendront en clandestin, comme Sartre et Nizan, très probablement. Ils venaient de l'école normale, suivre en clandestin certains cours. Et puis des gens qui viennent l'attendre à la sortie du lycée, comme Raymond Aron, sur lequel il y aura une très grande influence au départ. Il va rester dans ce lycée Henri IV jusqu'en 1933, moment de sa retraite. Alors c'est bien sûr une fois qu'il est à Paris qu'il écrit dans la dépêche de Rouen et Normandie régulièrement tous les jours. Donc entre 1906 et 14, il va écrire 3083 propos. Il écrivait, il se contraignait à n'écrire que sur une double feuille, comme ça, une seule feuille coupée, pliée en deux. Il y avait une contrainte formelle qui l'obligeait à terminer, comme un sonnet. Un sonnet, on ne peut pas rajouter un vers, c'est pas possible. Et là, c'est pareil. Donc, cette contrainte lui était très utile. Et voyant la fin arriver, il fallait qu'il trouve une chute. Hein, et il reprenait très peu ses textes. Alors, voilà ce qu'il dit de Barrès en 1906, pour se foutre de sa tronche un peu. Je viens de lire un livre de Barrès qui a pour titre « Au service de l'Allemagne » et je ne regrette point de l'avoir lu. Cela m'a fait voir quel genre de pensum est imposé à un pauvre diable de littérateur sans particules lorsqu'il veut être de l'Académie française et une fois qu'il y est, n'y pas y être ouvertement méprisé. Barrès n'est pas un sot. Il a très bien compris ce que c'est qu'une âme académicienne et comme une souple paysanne se tasse et se ramasse dans le dernier corset, lui, avec une admirable aisance, s'est montré plus copé que copé, plus bazin que bazin et plus brunetière que brunetière. C'est presque trop bien. Il faut le suivre dans son pèlerinage en Lorraine, dans ses promenades et méditations sur la montagne de Saint-Odile, adorant à chaque tournant de sentier l'âme de ses ancêtres. L'âme invisible est présente. Un gros sapin, mes ancêtres l'ont planté. Un vieux banc, mes ancêtres s'y sont assis. Une auberge, mes ancêtres y ont mangé et bu. Un frais matin, mes ancêtres se sont éveillés à cet air et à cette lumière. Un mélancolique soir, mes ancêtres ont vu ce même soleil rouge dans ces brumes bleues. Un printemps, un été, un automne, un vieux mur, toujours le même refrain. Il ne s'agit que de frapper du pied la terre natale pour éveiller le peuple innombrable des ancêtres autour de soi et en soi. Et c'est comme pour battre le briquet. Il faut savoir, mais quand on sait, c'est une pluie d'étoiles à tous les coups. Le plus beau dans tout cela, c'est que Barrès n'est pas lorrain. Il est auvergnat. C'est sa cousine qui est lorraine. Alors là, c'est un autre bouquin anglais, il aimait beaucoup, beaucoup la littérature anglaise, un bouquin de Sterne, un grand écrivain anglais, qui vient de finir. Et puis voilà, ça sera le point de départ, hein, ça sera l'étincelle qui va créer à partir de laquelle il va créer ce propos, qui s'appelle les dindons. Sterne raconte que dans son pays, on conduit les dindons au marché, en revêtant un grand manteau noir surmonté d'un chiffon rouge. Je suppose que les dindons, qui sont par nature un peu myopes, prennent alors leur conducteur pour quelques grands et puissants dindons, mieux renseignés qu'eux-mêmes sur les destinées de la race dindonnière. Sterne n'insiste pas là-dessus. Il dit seulement que les hommes ressemblent beaucoup aux dindons. Quand je pense aux réceptions du 1er janvier, je trouve qu'ils n'exagèrent pas trop. Oui, ce jour-là, tous les fonctionnaires, gros et petits, s'habillent en dindons et vont l'air empesé et la tête juchée sur leur cravate, défiler devant quelque autre dindon encore plus haut cravaté qu'eux. Et que lui disent-ils ? Des niaiseries. Que leur répond-il ? Des niaiseries. Il faut entendre une fois ces stupides discours pour mesurer la sottise humaine. Il faut voir défiler la magistrature et l'enregistrement. Il faut connaître les hommes qui viennent en termes vagues et emphatiques affirmer leur fidélité inébranlable à la République. Et il faut voir de quel air grave l'autre dindon reçoit leur serment et leur répond dans le même style. Et du reste, sachez-le bien, tous ces gens ne sont pas si sots qu'ils en ont l'air. Tous s'ennuient à périr. Et baillent tant de dents, chose très difficile qui ne s'apprend que dans les bureaux. Si vous les interrogiez, ils conviendraient tous qu'ils n'ont rien dit d'utile et qu'ils n'ont rien entendu d'utile. Quoi qu'ils pensent là-dessus, ils recommenceront. Pourquoi ? Ils n'en savent rien. Aucun d'eux n'a jamais essayé de s'abstenir. Ils savent pourtant bien que cette procession dindonnière n'est pas dans leur service, qu'ils ne sont pas payés pour cela, que s'ils refusaient d'être figurants dans cette mascarade, il ne leur arriverait rien du tout. Néanmoins, ils y courent comme au feu, ce qui n'empêche pas beaucoup d'entre eux de mépriser ceux qui disent la messe et ceux qui y vont. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres textes d'une tonalité beaucoup plus grave, surtout au moment où la guerre commence à se pointer à l'horizon. Et c'est là que Jaurès et Bernanos entrent en scène. Donc Jaurès a un immense respect pour Alain. Il pense que les propos sont un des chefs-d'œuvre de la littérature française, etc. Bon. Bernanos, lui, est tout jeune et il écrit dans l'avant-garde de Normandie, le journal d'en face à Rouen, en gros. Le journal d'extrême droite, monarchiste, revanchard, nationaliste, comme on n'oserait plus l'être. Et voilà ce que dit Bernanos sur Alain quand il a 20 ans. Bien sûr, c'est un très grand écrivain, mais quand il a 20 ans, là, il fait un petit peu fausse route. En tout cas, ce qu'il dit d'Alain nous permet de mesurer à quel point cet Alain qu'on a réduit à parfois être une sorte de personnage sans grand relief, tout juste bon à fournir des sujets de dissertation, était un personnage dérangeant et complètement perçu comme un extrémiste. Qu'Alain paraisse à sa petite terrasse des billets d'un Normand, et c'est d'abord un rire général. Puis à l'odeur de bile et d'encre que ce maraud répand autour de lui, le cœur se soulève. Qu'un tel radoteur puisse écrire si longtemps, chaque matin, son petit boniment, c'est un scandale. C'est ta silhouette infirme et l'ombre de tes deux oreilles d'âne qui s'étendront le soir de la défaite sur nos champs sacrés couverts de mort. Tu auras pointé le canon croupe droit au cœur de ta patrie. Le maître d'école allemand, c'est toi, Alain. Instituteur et proxénète. Barbon qui sécrète la pensée comme une sueur et qui n'annonce que des âneries égalitaires. Mardi dernier, ce même Alain levait la patte au pied de la statue que la France unanime élève à Déroulède, son ami. On voit que c'est quand même un personnage qui, par ses écrits, est extrêmement provocateur, mais il a pour la bonne cause, donc on peut que s'en réjouir. Et il explique en particulier que les pouvoirs sont contents quand la guerre arrive. Ils recherchent ça. Parce que ça permet, une guerre permet de diriger la société comme on dirige une armée, donc c'est très bien. Il n'y a plus d'opposition, on entend plus, on voit qu'une seule tête, hein. C'est tout à fait bien. Donc la guerre s'étend comme une peste. Je vous lis la fin d'un de ces propos très sombres de 1913. On se bat dans les Balkans. La guerre s'étend comme une peste. L'Allemagne grossit ses régiments et forme de nouveaux corps d'armée. L'homme politique n'oserait pas dire que c'est heureux et que cette angoisse universelle lui donne le temps de respirer. Il n'ose même pas le penser, mais il le sent. Il est comme ces gens qui ne sont jamais aussi vivants, aussi brillants, aussi éloquents que lorsqu'un gros orage s'amasse dans le ciel. Considérez le redoutable Doumer, type achevé de l'homme tyrannique. Depuis 10 ans, cet homme annonce publiquement la guerre. Tous les officiers qu'il recevait à sa table graissaient leurs bottes en rentrant chez eux. Mais ce Jupiter de théâtre appelait vainement les nuages et la foudre. Je croyais qu'il tomberait tout à fait par le ridicule après tant de vaines prédictions. Mais le ciel politique est sensible aux voix et aux prières. Enfin, l'orage est sur nos têtes et Jupiter resplendit de nouveau dans une auréole de feu, de fumée et de sang. Tous les dieux et tous les sous-dieux en profitent. Le moindre commissaire se sent plus fort. Ce mauvais air chargé de poudre excite et fortifie les pouvoirs, en même temps qu'il endort et stupéfie le citoyen. Quel projet de justice pourrait-on bien suivre ou seulement concevoir lorsque la force montre sa tête de méduse ? Allons-nous discuter pour quelques petits comptes lorsque nous voyons qu'on prépare un holocauste de 100 000 jeunes gens, sans compter les incendies, les pillages, la famine, les maladies ? Pauvres fous, nous qui pensions à gouverner nos gouvernants, nous avions compté sans le dieu des armées. Voici l'an 1000 et le dernier jugement. Donc la guerre éclate, malgré Alain et malgré Jaurès. Voilà, l'ordre de mobilisation générale. Et il se trouve qu'il a écrit un propos sur cette affiche, une dizaine d'années après. Circulaire recommandée. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 3 août. Je ne crois pas que ceux qui ont lu cette affiche blanche en oublient jamais le contenu. Mais la forme même de cet ordre effrayant mérite attention. L'administration y a mis sa marque. L'État se montre ici sans visage, comme il est. En sorte qu'on ne trouve point ici de colère, ni même de gravité. Ce n'est qu'une note de service qui s'adresse cette fois à quelques millions de fonctionnaires, tous citoyens en âge de servir étant fonctionnaires. C'est à peu près comme si on nous avait dit ceci. Pour des raisons d'ordre administratif, et conformément à 3600 circulaires antérieures, la plupart confidentielles, toutes les libertés sont suspendues et la vie des citoyens âgés de moins de 50 ans n'est plus garantie. Donc il part à la guerre, il a 46 ans, il va écrire une très abondante correspondance à la guerre, il va écrire des livres aussi à la guerre. Il a 46 ans et il ne veut pas rester à l'arrière avec tous ceux qui ont poussé à la guerre et qui ne sont pas allés la faire. Il ne veut surtout pas que seules les élites, dont il fait partie malgré tout, par son éducation et par son métier, que seules les élites évitent d'aller au pire endroit, alors que les jeunes, on leur demande pas, les jeunes qui n'ont pas d'appui, on ne leur demande pas leur avis. Donc il veut partir avec ses élèves, qui eux vont partir se faire tuer éventuellement. Donc il veut y aller. Il veut être au pire endroit avec ceux qui n'ont pas le choix. Et il considère aussi que dans une démocratie, on est tous responsables de ce qui se passe. On n'a pas pu empêcher la guerre, elle est là, eh bien, on va aux frontières pour empêcher l'ennemi d'entrer quand même, pour protéger la nation. Sans haine, mais on fait quand même la guerre. Donc c'est un pacifiste qui fait la guerre. C'est un peu troublant, ça mériterait débat. Et en tout cas, donc, il ne veut pas rester à l'arrière avec des Barès, hein, des gens comme ça. Barès, dont il dira d'ailleurs pendant la guerre, dans une lettre qu'il écrit à sa copine Marie Salomon, je crois, il dit « Oui, Barès, j'ai trouvé ta définition de Barès. » Barès qui s'est beaucoup agité avant la guerre, mais qui a refusé de servir. La définition de Barès, s'agiter avant, s'en servir. C'est ça ? C'est tout à fait ça, Barès. Donc, il part à la guerre et il va écrire de nombreux propos, de nombreuses correspondances, 2-3 petits extraits. « Nous ne songeons à la paix que pour nous venger. L'assassin, pour moi, ce n'est pas l'Allemand. » C'est le français dans son fauteuil. Il va écrire donc beaucoup de livres à la guerre, dont l'esquisse d'un bouquin qui s'appellera « Mars ou la guerre jugée ». Et il parle en particulier du général Mangin là-dedans. « Je relis des récits de la guerre et mon cœur bondit lorsque Mangin pique son épée dans le flanc de l'adversaire. Voilà un fier jeu, comme chante Verlaine. Mais doucement, mon ami, tu as vu ces choses de plus près et tu les jugeais moins belles. Et d'abord, tu sais bien que ce n'est pas Mangin qui bondit. Tu sais où se trouve le poste d'un commandant d'armée. Tu connais le téléphone et les signaleurs. Tu te représentes dès que tu le veux cette épée du général qui a 10 kilomètres de longueur. » À la pointe se trouve le fantassin dont tu vis assez, le cadavre couché avec d'autres et comme jeté dans le sens de l'attaque. Donc voilà les textes qu'il publie plus ou moins pendant la guerre. Système des Beaux-Arts, 80 chapitres sur l'esprit et les passions. Et après la guerre, il ne fera plus de journalisme quotidien. Il va écrire dans des revues, dont une revue qui s'appelle Libre Propos, dans laquelle Raymond Aron, Simone Veil, la philosophe, bon, des gens moins connus, Georges Canguilhem, le professeur de Michel Foucault, qui a une très grande influence sur beaucoup de philosophes au XXe siècle, et Jean Prévost, romancier, bon, ça fait partie des gens qui l'entourent. Et alors, il écrit aussi des grands livres de philosophie qui sont moins connus, comme Les Dieux, Histoire de mes pensées, Idées, Les Entretiens au bord de la mer, bon, et Les Idées et les Âges aussi, des très grands livres. plus difficiles peut-être que les propos, mais qui sont d'une très très belle écriture. Les années 30, bon, on défile dans les rues. Alors Alain, il vit cette montée du fascisme. On a dit qu'il avait été tout à fait insensible à ça, c'est pas vrai. Il dit dans un de ses propos en 1935, « Quand j'entends Hitler dire « Allemagne, lève-toi », je vois des armées de morts qui se couchent. » Bon, alors un très beau texte de 1927, un propos qui est d'une autre tonalité par rapport à ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, qui n'est pas toujours très clair, mais qui est très beau. Il y a des parties de la côte bretonne où les cultures, les haies et les bouquets d'arbres viennent border les rochers inhumains et l'océan sans moisson. Il n'y a qu'un petit sentier de douaniers entre le bout de sillon et le bruyant précipice. L'on peut ainsi, sur quelques petites plages et regardant vague après vague, se trouver adossé en quelque sorte au monde humain, tout marqué de signes, tout réglé et raisonnable, devant ce sable à demi-liquide où s'effacent les signes et devant cette étendue en agitation qui refuse tout signe. Ici, quelque chose prend fin et quelque autre chose commence. Ici finit l'empreinte humaine et le royaume de coutume où l'esprit s'endort. Ici commence le chaos où il faut que l'esprit s'éveille. Souvent, au jour de fête, on voit, comme en un théâtre, sur la plage courbe, paysans et citadins qui regardent la chose inhumaine comme un miroir où elle se reconnaîtrait. Un fort sentiment saisit ici l'homme et éveille d'abord une attention sans espérance. Toutes les pensées sont recouvertes et noyées. Ici, on ne sème point, on ne récolte point, mais il faut conquérir et l'on ne peut garder. Les vaisseaux n'ont point laissé de sillon ni d'ornière. Ici finit le royaume de providence, d'épargne, de fruits, de travail, où la constance cache si bien la loi. Ici se montre en tours et retours l'inconstante nature des choses qu'on ne peut prédire et qu'il faut comprendre. Constante et fidèle en cela, fidèle et suramie en cela qu'elle ne promet point, qu'elle ne signe point d'alliance, qu'elle ne trahit point. Je crois savoir ce que c'est que la loi de l'existence et qu'elle est sans égard par cet immense jeu des chocs, des frottements et de la nécessité absolument extérieure dont l'océan est l'image, l'océan qui ne veut rien, qui n'est rien que mobile poussière d'être, que glissement et repli et retour et balancement, qu'il n'y ait point de dessein là-dedans, ni aucun genre d'esprit. Je le veux, je m'y tiens. Cette indifférence est ce qui porte le navire et l'idée de cette indifférence est ce qui porte le navigateur. Merci.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.